Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Des étudiants grecs ont décerné leur Goncourt le 8 juillet au roman « Les impatientes » de la Camerounaise Jaili Amadou Amal. Dans son œuvre d'inspiration autobiographique, Amal raconte la vie de trois femmes, Ramla, Hindou et Safira, qui doivent faire face à la polygamie, au mariage précoce et forcé et aux violences conjugales. Les jeunes jurés ont justifié ce choix par la nécessité de dénoncer les violences faites aux femmes partout dans le monde. Ce livre a déjà remporté le prix Goncourt des lycéens le 2 décembre. En Égypte, le Parlement a durci la peine pour harcèlement sexuel. La Chambre des représentants a approuvé le 11 juillet un amendement qui transforme ce délit en crime, désormais passible d'une peine d'au moins 5 ans de prison. La peine minimale passe à 7 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes, par exemple pour harcèlement collectif ou avec une arme. Le harcèlement sexuel en Égypte est systématique dans certaines villes où des bandes d'adolescents et de jeunes hommes passent leur journée à guetter des passantes pour les harceler. Ces comportements ont été dénoncés à plusieurs reprises. L'ex-maire de la deuxième ville sud-coréenne, Busan, a été condamné à 3 ans de prison pour harcèlement sexuel contre 2 subordonnés. Oh Keo-don a démissionné en 2020. Tout en déclarant qu'il avait tous les torts, M. Oh a toujours affirmé que les contacts avec ses employés avaient été accidentels. Le juge a conclu que le prévenu avait abusé de sa position de supériorité pour se livrer à des faits de harcèlement sexuel. L'ancien grand espoir du centre-gauche, Han Hee-jung, accusé de viol par sa secrétaire, avait également été condamné à 3 ans et demi de prison en 2019. Depuis le 10 juillet, le gouvernement espagnol est encore rajeuni et féminisé, avec une moyenne d'âge de 50 ans et 63% des ministres femmes. Nadia Calviño, ministre de l'économie, remplace Carmen Calvo comme première vice-présidente, suivie de Yolanda Diaz, ministre du Travail, et de Teresa Ribera, ministre de l'Environnement. Parmi les nouvelles arrivées, la juge et ancienne présidente du Sénat, Pilar López-Cuenca, est ministre de la Justice. La maire de Gava, Raquel Sánchez Jiménez, a été nommée ministre des Transports et Pilar Alegría, ministre de l'Éducation. La nouvelle porte-parole du gouvernement est Isabel Rodríguez Garza, ministre de la Politique Territoriale. Diana Morán est devenue ministre de la Science et de l'Innovation. Et Margarita Robles a conservé son poste de ministre de la Défense.
Parole de femme.
La La pandémie de Covid-19 a bouleversé de nombreux acquis en faveur des femmes. Plusieurs organisations féminines tentent d'inverser cette tendance afin de ne pas réduire à néant des décennies d'efforts dans la lutte contre le mariage forcé des filles. J'ai joint au Mali, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis des ONG qui luttent contre ce fléau. L'ancienne députée malienne de Kati, Nana Sanou Kané, secrétaire générale du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, déplore que son pays ne dispose toujours pas de loi contre les violences basées sur le genre.
Des questions qui ont toujours été des questions de l'homme. Nous savons que nous avons ces formes de violence sur lesquelles nous avons toujours voulu avoir une loi. Mais je sais qu'avec la crise de 2012, ça s'est beaucoup accentué, surtout les mariages précoces, les grossesses précoces.
Madame Kané souligne que le Mali a toujours privilégié la sensibilisation pour tenter d'apporter des réponses adaptées.
Il y a des gens culturellement qui font le mariage précoce, c'est lié à la culture. C'est pour ça que moi j'ai dit la question du mariage précoce au Mali, il faut l'aborder sous plusieurs angles. Parce que là où c'est des questions culturelles, c'est qu'il faut trouver des réponses à ces questions culturelles-là. Et là où en tout cas les gens le font par rapport à d'autres choses, il faut toujours essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Mais si nous mettons le tout dans un panier, ça peut fausser la réponse. Et quand il y a deux réponses, nous les avons, c'est peut-être que nous pouvons renforcer maintenant avec la loi que nous sommes toujours en train de chercher. Parce que la loi ne va pas sanctionner juste les mariages précoces ou forcés. Ça va aussi prendre en question d'autres formes de violence. Et peut-être que la loi pourrait permettre aussi maintenant d'avoir de meilleurs résultats.
En janvier, le gouvernement de transition de Mokhtar Ouane a abandonné le processus d'adoption du projet de loi relative à la violence basée sur le genre, une nouvelle fois sous la pression des leaders religieux qui reprochent au texte de donner du pouvoir à la femme et de permettre le partage équitable de l'héritage entre frères et sœurs, alors qu'en droit islamique, le fils bénéficie du double de la part d'une fille. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, plus de 40% des filles ont été contraintes au mariage avant l'âge légal de 18 ans. L'abbé Nieblé, chargé de programme protection, éducation et renforcement des capacités à l'ONEF, l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, note que peu de progrès ont été réalisés.
Il y a des disparités selon les régions, mais globalement, les enquêtes nationales indiquent autour de 36% du taux de mariage des enfants. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, mais avec les différentes crises, on n'a pas trop de visibilité. Et naturellement, les actions qui sont menées sur le terrain ne portent pas vraiment le fruit qu'on escompte. Donc le taux n'a pas véritablement régressé.
Monsieur Nieblé explique pourquoi peu de jugements sont rendus.
Ce sont des procès qui sont très très rares, parce que vous imaginez que c'est une pratique traditionnelle et les dénonciations ne sont pas courantes. Quand bien même elles sont faites, les quelques rares cas, les poursuites ne sont pas systématiques.
Le mariage des mineurs est encore aussi fréquent en Afrique du Nord. Le 16 mai dernier, la presse marocaine a largement médiatisé le suicide d'une lycéenne mariée de force. En 2012, Amina Filali, contrainte d'épouser l'homme qui l'avait violée, avait subi le même sort. L'article du code pénal qui permettait aux violeurs d'éviter la prison s'ils épousaient leur victime a été abrogé en 2014. Le mariage précoce est aussi pratiqué en Occident. Aux États-Unis, aucune loi fédérale ne réglemente l'âge du mariage et une dizaine d'États ne disposent toujours pas de loi fixant l'âge minimum légal pour se marier. Lara Kingstone, responsable de communication de l'ONG américaine SAIO, affirme que certains États ont même rabaissé l'âge du consentement au mariage.
C'est vraiment abject la façon dont l'âge du consentement au mariage a été déplacé. Je pense que ce rôle est une responsabilité fédérale. Et vous voyez que dans certains États, la loi a été modifiée, ce qui arrange les délinquants sexuels et les prédateurs plutôt que les jeunes filles.
En 2016, la Virginie a rendu le mariage des moins de 18 ans illégal en maintenant une exception à 16 ans si un enfant est émancipé par décision de justice. La Pennsylvanie, le Minnesota, le New Jersey, le Delaware et Rhode Island ont mis fin au mariage des enfants sans exception. Lara Kingstone précise que le mariage des mineurs peut toucher tout type de profil aux États-Unis.
Les victimes de mariages forcés peuvent être de tout genre, toute race, religion, origine nationale, de tout milieu socio-économique ou niveau d'éducation. Il n'y a pas de profil prédéfini sur cette question.
Selon l'organisation Unchained at Last, près de 300 000 mineurs étaient légalement mariés aux États-Unis entre 2000 et 2018. Le Texas est en tête du classement avec près de 42 000 cas devant la Californie, le Nevada et la Floride. Selon Lara Kingstone, réglementer l'âge du mariage au niveau national ne semble pas à l'ordre du jour.
Cela ne semble actuellement pas être la priorité absolue des législateurs fédéraux, ce qui laisse aux États la responsabilité de légiférer après que l'on ait traumatisé des jeunes filles.
Quant à savoir s'il existe une relation entre le mariage précoce et l'excision interdite sur une fille mineure aux États-Unis, la militante répond par l'affirmative.
Je pense que c'est très lié. Il y a beaucoup de craintes à propos de la sexualité des filles et des femmes. Il y a aussi le problème que le contrôle des femmes sur leur propre corps ne soit pas pris en considération. Dans des situations telles que le mariage des enfants et l'excision, ce sont des femmes et des filles qui sont forcées de vivre quelque chose sans leur consentement.
La loi fédérale sur l'excision a été renforcée en 2020 suite à un conflit avec le Michigan qu'il estimait inconstitutionnel. Madame Kingstone affirme toutefois que rien n'est gagné d'avance.
Depuis le début de la pandémie, il y a eu ce que beaucoup ont appelé la pandémie de l'ombre, une augmentation des violences sexistes et des pratiques culturelles néfastes telles que l'excision. À cause du confinement, les exciseuses sont devenues plus agressives dans leur objectif en recherchant activement de nouvelles filles à exciser pour combler ce manque durant la pandémie.
Aux États-Unis, les communautés concernées par la pratique de l'excision sont très diverses, allant des chrétiens évangéliques blancs du Midwest aux communautés sud-asiatiques de Détroit dans le Michigan, précise Madame Kingstone. La lutte contre les mariages précoces et l'excision ne peut se passer de synergie entre une multitude d'intervenants dans divers domaines, estime l'experte.
Nous devons travailler ensemble avec les législateurs, les politiques, les prestataires de soins de santé. La société en général peut faire beaucoup plus pour éduquer le public sur ce problème afin que les prestataires de soins de santé, y compris mental et les écoles, puissent tous être conscients de ce phénomène et savoir comment réagir avec sensibilité.
Les hommes ont aussi leur mot à dire, selon l'ONG Sanio, qui soutient que leur parole est essentielle dans les campagnes de sensibilisation sur les médias.
C'est quelque chose que les hommes peuvent soulever, qu'ils ne ressentent pas le besoin d'épouser une femme excisée. C'est la norme sociale qui fait pression sur les gens pour que leur fille soit excisée, car cela pourrait signifier que personne ne voudrait les épouser. Certainement, les hommes peuvent se manifester et exiger ce changement.
Excision et mariage précoce sont des pratiques néfastes pour les filles au regard des normes internationales. Voulant mettre leur enfant à l'abri du besoin en la donnant en mariage, les parents auront bien souvent perpétué le cycle de la pauvreté à travers les générations. Le mariage des filles est issu d'une pratique traditionnelle qui résiste malheureusement à tous les temps, mais l'espoir est permis quand l'on sait qu'il suffit parfois de 10 minutes d'explication pour convaincre un parent, un couple, que la famille, la société, le monde entier recevront les meilleurs bénéfices d'une fille scolarisée, éduquée. En effet, être une bonne épouse n'est pas une profession ni un statut, ce dont la femme manque le plus sur la planète. Dans le nord du Cameroun, les conseils des chefs traditionnels sont habituellement composés uniquement d'hommes, mais au cours des 2 dernières années, ils se sont ouverts aux femmes. Certaines sont pionnières dans la lutte contre le mariage précoce, dans une région où la majorité des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Un reportage d'Anne Zouanke à Mokolo, relaté par Mouamadou Oumfa.
Il y a 2 ans, les parents de Fadimatou Adamou ont arrangé son mariage à l'âge de 16 ans avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Son mari la battait souvent jusqu'à ce qu'elle soit secourue par les premières femmes chefs de la région.
Comme ça, j'ai souffert là-bas. Je n'ai même pas quoi manger. J'ai souffert. Qui a donné à ma grand-sœur l'argent? Isaac, qui allait m'amener ici?
Les conseils des chefs traditionnels du Cameroun sont habituellement constitués d'hommes. Mais ces 2 dernières années, 11 femmes comme Hadja Kaigama Saïdou ont été nommées chefs adjoints, alors qu'elles sont toujours sous la direction d'un chef de sexe masculin de rang supérieur. Hadja Kaigama affirme qu'avec leur nouveau rôle, elles peuvent aider à faire plus pour les femmes.
Avec les femmes, on leur a expliqué comment elles peuvent même exprimer leurs besoins à travers nous au niveau de la chefferie, les violences faites aux femmes. Elles ont des problèmes, elles n'arrivent pas à exprimer, c'est à travers nous qu'elles expriment leurs besoins.
Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, alors que plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans et ne vont pas à l'école, ce taux grimpe à 60% dans le nord du pays. L'étudiante Aïssatou Tchanigui est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Ses parents voulaient la retirer de l'école et la marier, mais les femmes chefs les ont convaincues du contraire.
Elles ont venu causer avec eux pour les convaincre, même si j'ai un enfant. Si elles, mes parents, ne m'abandonnent pas, j'ai le droit, j'ai toutes les chances du monde de réussir.
Il aura fallu 4 ans de lobbying de l'Association des femmes et des filles de la région de l'Adamawa pour que les chefferies acceptent de s'ouvrir aux femmes. La présidente de cette association, la FADA, Françoise Baba, fait savoir que depuis 2019, les femmes chefs ont aidé des centaines de femmes et des filles victimes de violences à accéder aux soins de santé et à l'éducation.
Dans un village où nous avons désormais nos femmes notables, les retours qui nous sont revenus de l'école, c'est que le taux de scolarisation des jeunes filles a augmenté de 40%. Pour cette année scolaire.
La FADA affirme qu'elle continuera à faire pression pour qu'il y ait plus de femmes chefs afin de réduire les inégalités de genre au Cameroun.
Le monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Iris Ferreira, 29 ans, est depuis le 11 juillet la première femme rabbin ordonnée en France. Elle est devenue la 5e femme à officier dans le pays après d'autres ordonnées à l'étranger. Contrairement aux orthodoxes qui considèrent que confier le rabbinat à une femme n'est pas conforme à la halakha, le mouvement du judaïsme libéral estime qu'elles ont les mêmes droits que les hommes. D'autres femmes en formation vont devenir rabbins dans les 4 ou 5 ans. Il y a environ 1 000 000 de femmes rabbins dans le monde, 800 exercent aux États-Unis, 50 en Europe et le reste en Israël. Une Singapourienne qui a affamé, frappé et fini par tuer sa domestique birmane a été condamnée à 30 ans de prison. Les attaques contre la jeune femme de 24 ans ont été enregistrées par les caméras de surveillance de la maison des employeurs. Embauchée en 2015 par Gayathri Murugayan et son mari, un policier, Pyong Gaidon est morte l'année suivante. La Singapourienne attaquait son employé également avec l'aide de sa mère, selon les documents du procès. Elle a plaidé coupable de 28 chefs d'accusation, dont homicide volontaire. Mal nourrie, la jeune victime pesait 24 kilos au moment de son décès. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, le travail domestique s'exerce souvent hors de toute réglementation, sans contrat ni assurance et congés payés. Les femmes de ménage et nourrices méconnaissent généralement leurs droits ou peinent à les faire respecter. Ces dernières années au Sénégal, plusieurs agences de placement ont vu le jour à Dakar pour formaliser le secteur. Un reportage d'Alison Lekogo-Fernandez.
Comme chaque matin, vers 7h, Marie Nielsen prépare sa fille pour la crèche avant d'entamer sa journée de travail.
Bravo!
Originaire d'un village dans la région de Kaolack, elle vit dans la capitale sénégalaise depuis 10 ans et exerce comme femme de ménage, le plus souvent dans des conditions précaires.
Longues horaires, il n'y en a pas de contrat. Et les gens, beaucoup de patrons ne respectaient pas leur parole quand même. Comme c'est pas un contrat écrit, et eux, ils ne respectent pas leur parole. Ils ont envie de t'arrêter, ils vont t'arrêter tout de suite.
Jusqu'à son 9e mois de grossesse, Marie Nilan travaillait de 7h à 21h, 14 jours sur 15, pour un salaire mensuel de 90 000 francs CFA, soit moins de 170 dollars. Mais depuis 3 mois, elle a intégré une formation au travail domestique. Cuisine, procédure de nettoyage, mais aussi comportement à adopter, cette structure privée a été créée il y a 2 ans par Marie-Hélène Sagna, de retour dans son pays d'origine après avoir passé des années en France.
Je considère le travail de maison comme un vrai métier, et parce que c'est un vrai métier, il mérite d'être appris comme n'importe quel autre travail. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des professionnels qui vont pouvoir valoriser leurs compétences.
Et qui dit valorisation des compétences, dit aussi salaire plus élevé. C'est en tout cas ce qu'espère Marie Nilan.
Avant, si t'as pas reçu la formation, tu demandes un certain salaire, on te dit que toi t'as pas fait aucune formation et tu demandes cette somme d'argent. Non, c'est pas normal. Mais avec la formation, mashallah.
Une fois les 3 mois de formation validés, Marie-Hélène Sagna s'occupe ensuite de l'insertion professionnelle. Elle rencontre de potentiels employeurs et pose ses conditions.
On ne place pas les employés n'importe où. On a un taux horaire à respecter par jour. On a une grille salariale en fonction des tâches qui sont demandées, le ménage, la cuisine, le repassage. Notre intérêt principal, c'est d'essayer d'établir une relation gagnant-gagnant.
Ces dernières années, plusieurs agences de placement, comme celle-ci, ont vu le jour à Dakar et tentent donc de formaliser le secteur en imposant des contrats de travail, une couverture sociale et des conditions décentes. Alison Ekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.